Laurence Thomas. Allez, bonjour Laurence, c'est le journal.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité, la rentrée scolaire, pas question de la reporter, a dit le ministre de l'Éducation hier, qui durcit les règles, port du masque systématique au collège et au lycée. Les autres titres, Laurence.
Le rebond des contaminations en France, nous ferons le point sur les régions les plus touchées. Un avion médicalisé allemand en route vers la Sibérie pour récupérer Alexei Navalny. L'opposant russe est dans un état grave après avoir été empoisonné, selon son entourage. Et puis, touche pas à mon patrimoine, ou quand la salade niçoise revisitée par Cyril Lignac déclenche la colère des internautes.
Les invités de la matinale, 7h50, Éric Reynard pour son dernier roman, Comédie française, l'histoire d'un jeune journaliste qui enquête sur la naissance d'Internet, invention française abandonnée par le gouvernement sous la pression des lobbies. Et puis Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, sera l'invitée du grand entretien à quelques jours de l'annonce du plan de relance de l'économie. Pour vos questions, le standard est ouvert, 01 45 24 7000 ou franceinter.fr.
France Inter.
L'éducation n'est pas une variable d'ajustement ni de nos sociétés, ni d'une crise sanitaire. À quelques jours de la rentrée scolaire et avec des contaminations qui repartent à la hausse, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a été formel hier soir sur France 2. Les enseignants rentrent le 31 août, les élèves le 1er septembre. Pas question de reporter la rentrée, éventuellement au cas par cas du confinement local et le port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans les établissements, les précisions du ministre.
S'agissant des adultes, ils portent le masque. S'agissant des élèves, il s'agit des élèves de 11 ans et plus, autrement dit les collégiens et les lycéens. Et ce que nous avons ajouté par rapport à ce que nous envisagions début juillet, c'est que ce port du masque sera systématique de la part de tous les élèves à partir de l'âge du collège et non pas seulement lorsqu'il n'y a pas de distance physique. Alors là, on fait ce qui se passe dans le reste de la société, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Autrement dit, les personnels de l'éducation nationale auront un masque fourni par l'institution. Et puis le masque pour les élèves est une fourniture comme une autre, comme on vient avec sa trousse ou ses cahiers. Okay. Avec désormais les masques lavables. Évidemment, dans les cas les plus extrêmes, on sera capable de fournir des masques aux enfants si nécessaire.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, hier soir sur France 2. Alors, ces propos suffiront-ils à rassurer les parents comme les enseignants? C'est le reportage de Sonia Princé.
Warda et Fabien travaillent tous les deux dans le commerce alimentaire. Ils ont deux enfants de 8 et 3 ans et craignent de revivre le cauchemar du confinement quand il fallait mener de front le travail et l'école à la maison.
On est un peu inquiets parce qu'on a peur que les cours reprennent pas. Moi, personnellement, je suis inquiète parce que pendant le confinement, on a continué à travailler avec mon conjoint et pour nous, c'était pas facile du tout.
Là, on voit dans les fournitures, ils demandent par exemple une clé USB en CE2. On se dit, pourquoi la clé USB? Est-ce que c'est pour leur donner du travail et puis comme ça, ils seront à la maison à travailler? On n'est pas des profs et on a envie que nos enfants puissent continuer dans de bonnes conditions.
Les conditions, c'est justement ce qui suscite beaucoup d'interrogations. Selon la Fédération de parents d'élèves FCPE, rien n'a été anticipé pendant l'été, comme le dit Carla Dugo, la coprésidente.
Depuis mai dernier, quand même, la FCPE, comme l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, ont demandé au ministre de l'Éducation de préparer la rentrée de septembre. Et en fait, les choses n'ont pas été réalisées. Par exemple, la question des sanitaires. Des travaux devaient s'engager pour qu'il y ait assez de points d'eau sur l'ensemble des établissements au niveau national. Aujourd'hui, en fait, rien n'a été fait à ce niveau-là non plus, alors même qu'on sait que dans une journée, les élèves doivent se laver les mains plusieurs fois par jour, en fait.
Il y a aussi la question des programmes, des remises à niveau. Certains parents s'inquiètent du retard pris par les enfants.
Sonia Princé, l'OMS et l'UNICEF de rappeler que tout doit être fait pour favoriser la réouverture des écoles dans le monde et notamment en Afrique, car la pandémie de Covid-19 à aggraver les disparités dans l'éducation. L'Organisation mondiale de la santé qui estime par ailleurs qu'en Europe, malgré un rebond des cas de Covid-19, il n'est pas nécessaire de verrouiller de nouveau la société, car la crise pourrait faire basculer 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. On en reparlera avec le Liban dans le journal de 7h30. L'Europe, estime l'OMS, est beaucoup mieux préparée à une éventuelle deuxième vague. Ainsi, la France a dépassé ces dernières 24 heures les 4700 nouvelles contaminations, progression inédite depuis mai dernier, selon Santé publique France. Sur la période du 10 au 16 août, 6 départements en particulier apparaissent sur la carte de progression du coronavirus. Célia Kiré.
Il s'agit des départements avec plus de 50 cas détectés pour 100 000 habitants. En Île-de-France, Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne sont tous les trois concernés par cette forte incidence. Dans le sud, les Bouches-du-Rhône, avec plus de 80 cas pour 100 000 habitants, ne sont plus seuls à être en alerte. Il y a désormais les Alpes-Maritimes. Et dans l'ouest, la Sarthe est également un département où le virus circule activement, avec plus de 60 cas pour 100 000 habitants. Voilà pour les 6 départements en rouge. Et à côté, il y en a 24 en vulnérabilité modérée, avec en gros 20 cas pour 100 000 habitants. Au total, près de 17 000 personnes ont été dépistées positives en une semaine, chiffre en hausse de 40% par rapport à la semaine d'avant. Et cette progression reste plus intense chez les jeunes adultes. Le pourcentage de tests positifs augmente également pour atteindre 3%. Les admissions aux urgences, elles, restent assez faibles, un peu plus de 2 000 passages la semaine passée. Enfin, si l'épidémie continue de régresser en Guyane et à Mayotte, les indicateurs de Santé publique France restent préoccupants aux Antilles et à La Réunion.
Célia Kiri.
On passe à l'étranger avec un avion médicalisé affrété par une ONG allemande qui fait route pour la Sibérie afin de récupérer Alexeï Navalny.
Alexeï Navalny, l'un des opposants les plus féroces du Kremlin, sans doute empoisonné juste avant de prendre l'avion pour Moscou. Alexeï Navalny est dans le coma et selon les dernières informations, il ne serait pas transportable. Il est actuellement en réanimation à Omsk. La situation de l'opposant a été évoquée hier lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Les deux pays proposent leur aide médicale à Alexeï Navalny. On écoute le chef de l'État.
Nous sommes évidemment extrêmement préoccupés et attristés par la situation d'Alexandre Navalny et nous avons appris ce qui lui était arrivé. Et je veux ici dire que nous lui apportons tout notre soutien à lui, à sa famille, à ses proches pour un prompt rétablissement et nous sommes à leur côté. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous continuons de suivre très près la situation. Nous en avons discuté avec Madame la Chancelière. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection, c'est évident. Bien sûr, là aussi, toute la clarté devra être faite sur les circonstances qui ont conduit à cette situation. Et nous serons extrêmement vigilants sur les suites et les enquêtes qui seront menées.
Moscou va donc prévenu, mise en garde également de Joe Biden il y a quelques heures lors de son investiture à la Convention démocrate aux États-Unis.
Le temps des flirts avec les dictateurs est révolu, a déclaré celui qui sera peut-être le prochain président des États-Unis. L'Amérique, a dit Joe Biden, ne fermera pas les yeux, ne tolérera pas une ingérence étrangère dans les élections, allusion bien sûr aux dernières élections de 2016. Et l'Amérique promet de défendre les droits humains et la dignité. C'est un été, un classique de l'été. Malheureusement, la Californie fait face à une série d'incendies depuis plusieurs jours. Les autorités parlent d'une vingtaine d'incendies majeurs et la plupart dans le nord de l'État. Des dizaines de milliers d'hectares ravagés, des dizaines de milliers de personnes évacuées et surtout au moins 2 personnes décédées. Loïc Piala.
L'une des victimes est un agent de l'EDF local. Il travaillait sur des lignes électriques pour aider les pompiers. Des pompiers débordés qui ne peuvent pas être partout à la fois avec une vingtaine d'incendies en cours. Le gouverneur de Californie a décrété l'état d'urgence pour dégager des moyens supplémentaires. Il parle d'un dôme de chaleur au-dessus du Golden State. Résultat, plus de 10 000 éclairs en début de semaine qui ont déclenché certains des feux gigantesques ravageant le nord de l'État aujourd'hui. Je me suis réveillé et toute la colline était en feu, raconte Ronda. Le hurlement des flammes, je n'avais jamais rien entendu de pareil. On aurait dit une locomotive. C'était terrifiant. Les feux frappent notamment la région de Napa, connue pour ses vins. Les autorités dénombrent déjà des centaines de maisons détruites, dont celle de Walmer. J'ai regardé, j'ai vu l'arrière de ma maison brûlée, confie-t-elle au bord des larmes. J'ai perdu mes chats, j'ai tout perdu, je n'ai pas d'assurance. J'ai tout perdu. Les évacués se comptent par dizaines de milliers, obligés de se réfugier dans des centres d'hébergement d'urgence en pleine pandémie. Qui aurait cru que 2020 serait comme ça, dit cette habitante. C'est complètement dingue, alors serrez vos proches, dites-leur que vous les aimez et prenez soin de vous. Autre conséquence des flammes, hier, la qualité de l'air dans la région de San Francisco était la pire sur la planète. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Le PSG en finale de la Ligue des Champions, ça fait pas plaisir à tout le monde.
Pour éviter les débordements dans la ville de Marseille dimanche soir, les supporters parisiens sont priés de rester discrets. Le port du maillot du Paris Saint-Germain sera carrément interdit autour du Vieux-Port. Une décision inédite de la préfecture pour éviter affrontements ou agressions. On en reparle dans le journal de 8h. Et n'en déplaise aux Marseillais, Bernard Tapie, l'ex-patron de l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993, soutiendra le PSG dimanche face au Bayern Munich. Il le dit ce matin dans le journal Le Parisien. Le football, c'est aussi le retour de la Ligue 1 sur le terrain. Première journée de championnat avec la rencontre Bordeaux-Nantes à 19h. Au départ, rappelons-le, cela devait être OM Saint-Etienne, mais trop de cas de Covid à l'OM, d'où la nouvelle affiche d'ouverture. Et on apprend ce matin d'ailleurs que Payet est désormais positif, lui aussi. Un retour sur les terrains en compétition, presque 6 mois après l'arrêt brutal du championnat, qui n'aura jamais repris, contrairement aux voisins européens. La Ligue 1 de retour donc, mais dans un contexte incertain, notamment sur le plan économique. La situation, Xavier Monferrand, des clubs professionnels est très préoccupante.
Les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros, 605 millions selon le cabinet Ernst & Young, qui a réalisé une étude pour le compte de Première Ligue, le syndicat qui représente les clubs de Ligue 1, et son président, qui est aussi celui de l'AS Saint-Etienne, Bernard Caillazo, est inquiet pour la saison qui s'ouvre.
On ne sait déjà pas si on va pouvoir accueillir le public dans nos stades, on sait que nos mercato vont être plus faibles, alors on nous parle de nos droits télé en augmentation de 50%, mais l'augmentation de 50%, elle a déjà été mangée par la situation actuelle.
Des joueurs moins bien vendus, des droits télé incertains, une billetterie réduite à la portion congrue, mais aussi le sponsoring, dont la part reste encore limitée dans le budget des clubs. Mais ça inquiète l'économiste Christophe Lepetit, spécialiste du football.
Aujourd'hui, on ne connaît pas la situation économique des sponsors du football français. Très certainement qu'une partie d'entre eux a été très impactée et que donc une partie de ces sponsors-là ne pourra pas assumer les contrats de sponsoring qui les lient au club.
Et cette nouvelle saison s'annonce difficile pour les clubs de Ligue 1. Selon le cabinet Ernst & Young, la perte de chiffre d'affaires serait comprise entre 659 millions pour l'hypothèse optimiste et près d'un milliard d'euros pour le scénario le plus pessimiste, avec notamment une jauge maintenue à 5000 spectateurs jusqu'à la fin de l'année.
Xavier Monferrand. Enfin, Laurence, que serait la France sans une polémique? Et la dernière en date, prête à sourire, on adore. Hein.
Question, peut-on mettre 17 ingrédients dans la salade niçoise? Oui, pour le chef Cyril Lignac, qui a mis de la salade niçoise au menu de son émission, Tous en cuisine, émission qui revient lundi sur M6. La recette a été publiée sur Twitter, elle a fait bondir les internautes. Voilà, Cyril Lignac accusé de ne pas respecter le patrimoine. Franck Viano, défenseur invétéré de la cuisine niçoise, est révolté de cette salade réinventée, qui a ajouté des pommes de terre, des haricots verts ou encore du parmesan.
On est dans l'absurdité, quoi, parce que ce monsieur qui prône toujours les produits frais, les produits de saison, nous fabrique une salade niçoise qui est tout sauf une salade niçoise, dans la mesure où dans une salade niçoise, en fait, il n'y a que des produits crus, des crudités. Les haricots verts et les pommes de terre, malheureusement, les manger crus, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, tout simplement, ce chef, si j'ose l'appeler comme ça, nous a sorti une recette absurde. On peut pas faire d'expérimentation sur des recettes qui sont ancestrales. C'est comme si vous me disiez, demain je vais faire une choucroute, puis je vais enlever le chou, je vais faire de la blette. Les ingrédients de la recette de base, je crois qu'aujourd'hui, quand on est un chef renommé, réputé, on se doit de respecter ces recettes-là. Ou alors, faut pas avoir le discours contraire quand on est devant les caméras.
La salade niçoise, rappelons-le, est inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France. C'est l'étape avant sa reconnaissance à l'UNESCO. Je ne vous raconte pas de salade, Laetitia.
Merci beaucoup, Laurence Thomas, pour cette petite salade.